scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, j'ai un épisode un peu spécial à vous proposer. On a enregistré avec Julien Benoît une émission sur les yokai et les dinosaures japonais. Donc en fait, ça fait partie, vous savez, Julien Benoît, je l'ai déjà interviewé plusieurs fois sur le podcast, et sa spécialité, c'est un peu quand il vient parler à scepticisme scientifique, il parle surtout de cryptozoologie. Et donc lui, il a une chaîne qui s'appelle Stop Science sur YouTube, et sa chaîne Stop Science parle de paléontologie. Et donc il a une nouvelle série qui s'appelle Paléo News, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et en tout cas, on a fait un numéro spécial consacré au Japon. Et donc, dans la première partie, ils discutent pendant une dizaine de minutes des récentes découvertes de dinosaures au Japon. Et pendant la seconde partie, nous discutons, Julien et moi, donc j'étais l'invité, des yokai, donc les monstres japonais. Donc voilà, je vais vous passer cet épisode qui est un peu inhabituel, je dirais, pour scepticisme scientifique, mais néanmoins extrêmement intéressant pour ceux qui s'intéressent au Japon. Et voilà, comme je vous l'ai dit, si vous voulez passer la partie où Julien Benoît discute des récentes découvertes de dinosaures, vous passez à peu près 10 minutes. Moi, j'interviens à partir de la minute 12. Et là, on parlera des yokai, donc les monstres, l'équivalent un peu des fées, mais au Japon. Le lien avec certaines découvertes paléontologiques. Voilà, et aussi, sinon, n'hésitez pas à suivre la chaîne Stop Science. Stop Science. Particulièrement, par exemple, dans la vidéo là, dont je vais vous passer maintenant l'audio, il y a pas mal d'images. Donc, si vous voulez voir les dinosaures, les squelettes de dinosaures dont parle Julien Benoît, allez voir plutôt la vidéo sur YouTube si le sujet vous intéresse particulièrement. Voilà, c'était Jean-Michel Abrassard. Et on se retrouve sinon la semaine prochaine pour un autre épisode de Scepticisme Scientifique.
Bonjour à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée au Japon. La géologie du pays du soleil levant est surtout connue pour ses volcans et ses tremblements de terre, mais beaucoup moins pour ses fossiles. Mais les Japonais sont, comme nous tous, fascinés par les monstres du passé et les chercheurs y sont très actifs. Comme en Nouvelle-Zélande, en Australie et sur l'île Maurice, l'histoire de la vie sur les îles nippones a pris quelques détours particuliers du fait de leur isolement. Et si sur ces autres îles sont apparues des espèces dont les plus proches parents continentaux se sont éteints il y a des dizaines voire des centaines de millions d'années, alors imaginez quelle surprise attendent les curieux dans le sous-sol japonais. Cet épisode hors série vous propose de découvrir ce patrimoine méconnu. On commence par la découverte d'un nouveau mosasaur au Japon. Ce pays livre depuis la fin du 19e siècle d'impressionnants fossiles de reptiles marins mésozoïques tels que des tortues, des plésiosaures ou ce magnifique nouveau mosasaur. Phosphorosaurus vient du Crétacé de l'île d'Hokkaido, la plus au nord du Japon. Il a la particularité de posséder de très grandes ouvertures pour les yeux ainsi qu'une vision binoculaire. Ces deux caractéristiques augmenteraient le nombre de cellules photosensibles capables de capter la lumière dans le champ de vision, ce qui suggère que ce petit mosasaur était nocturne et chassait la nuit, alors que les grands spécimens de Mosasaurus, eux, chassaient le jour. Cette découverte illustre la complexité de l'écosystème marin japonais au Crétacé. Toujours du côté des reptiles mésozoïques, voici Fukui Venator, un petit dinosaure d'une vingtaine de kilos provenant du Crétacé du Japon. Très similaire aux dromaeosauridés du continent, Fukui Venator possède un doigt repliable vers le haut sur le pied qui rappelle beaucoup la griffe des célèbres raptors. Néanmoins, Fukui Venator semble plus primitif pour le reste de son squelette et possède plusieurs caractères qu'on ne retrouve pas chez les dromaeosauridés, comme la présence de très grosses narines et d'une dentition très spécialisée. À l'avant de la mâchoire, les dents sont robustes et spatulées, tandis qu'elles sont coupantes et recourbées au milieu et de taille réduite à l'arrière. Cette différenciation dentaire semble indiquer un régime omnivore, rare dans la famille des théropodes, et souligne la mosaïque de caractères très spécialisés qui rendent la classification de Fukui Venator dans un groupe particulier de théropodes difficile. Cela montre à quel point la prise en compte du registre fossile japonais est importante pour une bonne compréhension de l'évolution des dinosaures. On reste parmi les dinosaures avec la découverte du côté de Tokyo le 3 juillet 2016 d'une dent de titanosauriforme vieille de 130 millions d'années et trouvée par un jeune garçon de 14 ans. Alors qu'un dinosaure aussi unique que Fukui Venator souligne la particularité des faunes dinosauriennes du Japon, les titanosauriformes, eux, sont très communs en Asie, en Chine, en Mongolie et en Russie par exemple. Cette découverte fut annoncée quasiment un an jour pour jour après celle près de Nagasaki d'une dent de 8 cm de long et vieille de 81 millions d'années ayant appartenu à un représentant de la famille des tyrannosauroïdes. Oui, les tyrannosauroïdes ont bel et bien un jour hanté le sol du Japon. Les tyrannosauroïdes sont très communs en Asie, particulièrement en Mongolie où le célèbre Tarbosaurus bâtard, pendant asiatique du Tyrannosaurus rex, dominait la chaîne alimentaire. Ces deux découvertes rappellent que le Japon faisait autrefois partie du continent asiatique à l'époque des dinosaures et qu'il ne s'en détacha que bien des dizaines de millions d'années plus tard. Étant donné sa significativité scientifique, la découverte du jeune garçon est exposée au musée de Tokushima depuis le 3 septembre. À l'ombre des dinosaures maintenant, intéressons-nous aux mammifères du Crétacé. Le Japon est très connu pour ses mammifères mésozoïques tels que Sorlestes, Sasaya mammilos ou encore Akuzanobatar, tous très proches des espèces qu'on rencontre en Chine et en Mongolie à la même époque. Néanmoins, la découverte de pas moins de 250 dents ayant appartenu à une nouvelle espèce de thérapside prémammalien Tritylodontidae fait sa particularité. Les Tritylodontidae sont considérés comme les derniers thérapsides prémammaliens ayant survécu durant le mésozoïque. On pensait qu'ils s'étaient éteints à la fin du Jurassique, mais la découverte de ces dents dans le Crétacé du Japon indique qu'ils ont pu survivre là 30 millions d'années supplémentaires, soit la moitié du temps qui nous sépare du dernier T-Rex. Cette trouvaille suggère que malgré le fait qu'il était relié au continent, le Japon devait déjà servir de refuge pour certains groupes d'animaux, à l'instar de l'Australie pour ses monotrèmes et ses marsupiaux. Quittons maintenant le Mésozoïque et intéressons-nous aux mammifères du Cénozoïque et notamment ceux qui sont parmi les plus étranges ayant occupé le Japon, les Desmostyliens. Les Desmostyliens sont des mammifères aux allures d'hippopotame ayant vécu entre 30 et 7 millions d'années. Ils ont la particularité d'avoir des dents faites de barils d'émail juxtaposés. Cette famille d'animaux amphibies est née et s'est diversifiée le long des côtes de l'océan Pacifique uniquement, ce qui explique que vous n'en ayez peut-être jamais entendu parler avant. De par leur anatomie sans commune mesure, les Desmostyliens ont toujours été très durs à classer, mais un consensus s'était établi pour en faire des cousins des éléphants, des lamantins et des arsinoïtères, tous africains. Ceci n'allait pas sans poser de problème. Comment diable les Desmostyliens seraient-ils arrivés dans le Pacifique depuis l'Afrique sans ne laisser aucune trace fossile en chemin? La réponse vient de tomber comme une évidence aux yeux de la communauté scientifique. Les Desmostyliens ne seraient tout simplement pas proches des éléphants, mais du groupe des chevaux et des rhinocéros qu'on appelle les périssodactyles. À l'appui de cette hypothèse, on retrouve le fait que les périssodactyles étaient très répandus à cette époque en Asie et en Amérique, c'est-à-dire autour du Pacifique, et qu'un groupe de mammifères nommé les anthracobunidés, originaires d'Inde et aussi semi-aquatiques, semblent faire office d'intermédiaire entre les périssodactyles basaux et les Desmostyliens. Si cela s'avère exact, voilà qui retirera un épineux problème biogéographique du pied des paléontologues. Terminons enfin avec les proboscidiens. Le saviez-vous, mais il y a eu des éléphants au Japon. Le Japon, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a commencé à se séparer du continent entre 25 et 17 millions d'années quand la mer du Japon s'est formée. Les îles se peuplent alors de rhinocéros et d'autres espèces étranges comme les calicotères, sortes de chevaux munis de longs bras terminés par des griffes au lieu de sabots, leur donnant des allures de paresseux géants. S'y installent aussi des abeilles géantes qui montrent les affinités centre et sud-est asiatiques de cette faune et de cette flore. Mais en réexaminant leur collection de fossiles, les paléontologues japonais se sont rendus compte qu'une espèce parmi elles se démarquait nettement, le stégolophodon. Ce dernier, après avoir évolué pendant plusieurs millions d'années sur le jeune archipel, est devenu de plus en plus petit, tant et si bien qu'il y a 16 millions d'années, il est devenu nain. Les cas de nanisme dit insulaire suite à l'adaptation à la vie isolée sur une île ne sont pas rares chez les éléphants. Il en existe en effet de nombreux exemples autour de la Méditerranée, mais aucun n'atteint l'âge canonique de 16 millions d'années. Ainsi, le stégolophodon japonais est le plus vieux cas de nanisme insulaire documenté chez un mammifère jusqu'à ce jour, et il démontre qu'il y a 16 millions d'années, l'isolement des faunes japonaises par la mer était déjà particulièrement prononcé. On parle d'endémisme des faunes insulaires. La curiosité de l'émission, c'est Provampyrototis giganteus, un représentant XXL de la famille des céphalopodes vampyromorphes découvert en 1998 au Japon. Les vampyromorphes forment une étrange et ancienne famille de mollusques céphalopodes dont le curieux calamar vampire est aujourd'hui le dernier représentant. Ses ventouses en forme de pointe, sa couleur rouge vif et le fait qu'il soit bioluminescent ont valu à ce calamar le nom terrifiant de Vampyrototis infernalis, rien que cela. Néanmoins, ne vous inquiétez pas pour vos baignades, car malgré son nom terrifiant, Vampyrototis ne se nourrit que de plancton. La véritable curiosité n'est pas tant de découvrir des vampyromorphes fossiles dans les couches datées du Crétacé, mais de les avoir découverts dans le thorax d'un autre animal, entre les côtes d'un plésiosaure découvert au Japon. le calamar vampire semble avoir fait l'objet du dernier repas du reptile marin. Ne restait des pauvres céphalopodes que leur bec, la seule partie suffisamment dure pour être préservée dans la roche. Le nom Giganteus de ce vampirototis vient des dimensions de ce bec inhabituellement grand par rapport à l'espèce de calamar vampire actuel. Le registre fossile nippon est néanmoins coutumier de la découverte de kraken fossiles, puisqu'on y découvre aussi Yetzototis giganteus, Abrototis poséidon, ou bien encore Nanemototis ikidai, des paléocéphalopodes géants aux mensurations comparables à celles d'Architotis, le calamar géant actuel. Pour la rubrique vintage, nous revenons en 1998 quand une mise au point sur l'évolution des éléphants fossiles du Japon a permis de comprendre l'histoire du peuplement animal de ce pays. Comme nous l'avons déjà dit, le Japon ne s'est isolé du continent qu'il y a 16 millions d'années quand les mouvements tectoniques ont fait se soulever les îles et s'affaisser le socle de la mer du Japon qui le sépare du continent. Des espèces comme le stégolophodon se sont alors retrouvées là isolées et ont commencé à évoluer en parallèle de leurs cousins continentaux. Pourtant, quand on regarde le peuplement actuel des îles nippones, on constate qu'il n'est pas si différent que cela de celui du continent. L'île d'Hokkaido est peuplée par des animaux communs avec l'hémisphère nord, comme l'ours brun, tandis que les îles du sud, dont l'île principale est Honshu, sont peuplées par des espèces de la faune est et centre-asiatique, comme l'ours noir du Tibet. C'est aussi dans ces îles du sud qu'on rencontre des espèces dites endémiques, c'est-à-dire typiques du Japon, comme les célèbres macaques à face rouge ou macaques des neiges et les écureuils volants du Japon. Ces espèces endémiques n'existent pas sur Hokkaido. Cela a donc amené les biologistes à penser que le détroit de Tsugaru, qui sépare les deux îles, a agi comme une barrière entre le nord et le sud. Les îles du sud auraient vu leur faune immigrer depuis la Corée il y a très longtemps, tandis que Hokkaido aurait vu sa faune immigrer depuis la Sibérie via l'île de Sakhalin plus récemment, peut-être durant le dernier âge glaciaire. Scénario intéressant, oui, mais où étaient les preuves et quelles étaient les dates exactes? Les réponses à ces questions ont été superbement fournies par le registre fossile des proboscidiens nippons. Les paléontologues, conjointement avec les biologistes, ont en effet démontré dans une série d'articles parus entre 1998 et 2000 que plusieurs vagues d'immigration ont eu lieu entre le Japon et le continent durant les 10 derniers millions d'années. Les vagues de migration les plus anciennes ont vu débarquer sur les îles nippones plusieurs espèces d'éléphants venus de Chine, telles que Stégodon et Paléoloxodon, soit pas moins de 7 espèces en tout. C'est l'immigration ancienne des ancêtres des espèces endémiques qui peuplent aujourd'hui Honshu. La plupart d'entre elles sont arrivées il y a entre 5 et 1,5 million d'années. Puis il y a 100 000 ans, l'ère glaciaire change complètement la donne. Les glaces et la baisse du niveau de la mer forment un passage continu entre la Sibérie, Sakhalin et Hokkaido. C'est le débarquement de la faune typique de la steppe à mammouth sibérienne. Et rien ne peut sembler aujourd'hui moins japonais que cette liste d'animaux. Jugez par vous-même, des mammouths laineux, mais aussi des bisons, des chevaux, des cerfs et bien sûr les ours bruns, on ne retrouve ces éléments de faune qu'à Hokkaido, mais pas au sud. Honshu s'est donc retrouvé complètement isolé par deux détroits, celui de la Corée et celui de Tsugaru, et on sait aujourd'hui que ces détroits sont profonds de 130 mètres, tandis que durant le maximum glaciaire, la mer n'a régressé que de 100 à 120 mètres dans cette partie du globe. Cela a suffi pour que la faune sud-nippone soit laissée livrée à elle-même et commence à voir évoluer son propre lot d'espèces si particulières. Depuis lors, certaines espèces se sont éteintes, d'autres ont franchi le détroit de Tsugaru, mais dans les grandes lignes, la faune de l'archipel japonaise est directement héritée de ces grands événements de migration. D'abord depuis le sud, puis depuis le nord durant l'ère glaciaire, alors que le sud était encore isolé. Ainsi, le registre fossile des proboscidiens éteints a-t-il confirmé et précisé le modèle de peuplement établi par l'observation des seules espèces actuelles? Le coup de cœur de cette émission, c'est la classification du gisement de Fukui en géoparc par l'UNESCO en 2009. Découvert en 1989, le site de Fukui a, durant ses 20 dernières années d'exploitation, livré les restes d'une dizaine d'espèces de dinosaures, des os, mais aussi des œufs et des empreintes, ainsi que d'innombrables tortues, crocodiles, mammifères et autres vertébrés terrestres du Crétacé. Cette faune, qui partage beaucoup de similitudes avec celle de Mongolie, montre que le Japon était rattaché au continent à l'époque du règne des dinosaures. On retrouve au Japon les grands carnivores tyrannosauroïdes, comme sur le continent, ainsi que l'allosauroïde Fukuiraptor, mais aussi les étranges Therizinosauridae. On déterre aussi des herbivores géants sauropodes, tels que Fukui Titan et Tamba Titanis, ainsi que des nodosaures caparaçonnés, des ornithopodes à bec de canard comme Fukuisaurus et Koshuisaurus, et le cérapode Albalophosaurus, un proche parent des cératopsiens. Les œufs de dinosaures indiquent qu'à cette liste devaient s'ajouter des troodontidés et des oviraptoridés, tandis que les centaines d'empreintes de pas recensées attestent de la présence de nombreux ptérosaures. La création du géoparc a suivi de près l'inauguration du musée préfectural de Fukui le 14 juillet 2000. Construit près du site de Fukui qui a donné son nom à tant de dinosaures japonais, il s'agit du troisième plus grand musée du monde consacré exclusivement aux dinosaures après le musée Royal Tyrol au Canada et le musée de Zigong en Chine. L'invité de cette émission, c'est Jean-Michel Abrassard, docteur de psychologie, professeur de japonais et passionné par la philosophie et la culture du Japon, avec qui nous avons eu une discussion autour des folklores liés aux fossiles.
Alors, ce qui surprend au premier abord, c'est la difficulté avec laquelle on peut trouver des informations sur les fossiles japonais, sur la paléontologie japonaise. Et d'après les recherches que j'ai faites, en gros, il y a une grosse raison historique à ça. C'est qu'en fait, contrairement à la Chine voisine, en fait, ou à d'autres pays du sud-est asiatique, le Japon a une pharmacopée traditionnelle qui est relativement pauvre en fossiles. Donc, par exemple, en Chine, on trouve les fameux longgu qui sont donc ce qui signifie os de dragon, et qui sont très couramment utilisés dans la pharmacopée, et les gisements sont connus et exploités depuis longtemps. Il y a vraiment un profond enracinement historique de la géologie en Chine, mais au Japon, l'enracinement historique de la géologie il commence réellement qu'à l'ère Meiji, c'est ce qui est aux alentours de 1850 à peu près. C'est là qu'il y a les premiers géologues, qui sont tous occidentaux d'ailleurs, qui arrivent au Japon. Petite anecdote là-dessus, c'est que l'une des premières cartes géologiques du Japon est en français, parce que c'est un français ils ont cartographié Hokkaido, et donc l'une des premières cartes géologiques du Japon, c'est Hokkaido, et elle est légendée en français. La géologie m'a l'air beaucoup moins ancrée historiquement. Il y a quelques rares exemples qu'on a réussi à trouver avec Jean-Michel. Parmi ces exemples, il y a les griffes de Tengu, qui servaient à guérir les possessions par les démons. Et ces griffes de Tengu, en fait, c'était des fossiles de requins. Donc il y avait un peu de tous les requins. Il y a les fossiles de grands requins blancs de 2-5 millions d'années qui étaient pris pour des griffes donc de ces Tengu. Et il y a même alors ce qu'on avait lu dans un article qui avait un titre très amusant d'ailleurs, c'était Geology of the Dark Side, la géologie du côté obscur. Et il y avait cette référence aux dents du requin géant Mégalodon, qui était considéré comme les griffes du roi des Tengu. Tu peux nous parler des Tengu et de... Ouais. On peut prendre une dent de requin pour une griffe de Tengu.
Pour l'aspect juste historique que tu mentionnais avec la fête que la géologie, etc., arrive à l'ère Meiji au Japon, il faut pas oublier qu'avant l'ère Meiji, d'un point de vue historique, le Japon est fermé à l'Occident. Hein. Donc les seuls occidentaux qui sont autorisés à aller au Japon sont les Hollandais qui ont un petit port d'attache à Nagasaki qui est très très loin de la capitale. Et donc évidemment, comme le Japon n'a pas de contact avec l'Occident, ça a un impact sur sa capacité à accéder aux savoirs qui sont développés de par chez nous, forcément. Bon, il y a eu ce qu'on appelle les études hollandaises, donc c'est-à-dire qu'évidemment, comme les Hollandais étaient à Nagasaki, ils amenaient des livres avec eux, et puis les intellectuels traduisaient du hollandais vers le japonais, et puis comme ils pouvaient, quoi. Et alors, donc, il y avait quand même un certain accès, mais c'était quand même un tout petit canal d'information. Et donc, forcément, quand le Japon est ouvert par le colonel Perry vers 1850, comme tu l'as bien précisé, donc à ce moment-là, il y a eu un processus, et puis l'ère Meiji est arrivée vers 1860, donc il y a une réforme du gouvernement, etc. Et le Japon commence à se moderniser très très fort. Et qu'est-ce qu'ils font pour se moderniser très très fort? C'est pour apprendre les sciences occidentales et la philosophie. Et donc ils envoient des hordes de jeunes japonais étudier dans les universités européennes. Et donc c'est assez logique. Toutes les disciplines à l'occidental arrivent à ce moment-là chez eux. Donc toutes les sciences, la plupart des disciplines, la philo, la géologie, etc., vont commencer à ce moment-là au Japon. Donc ça, c'était pour la petite note historique. Les Tengu, juste pour faire un pas en arrière, les créatures dont on va parler, ça s'appelle des yokai, et donc c'est des monstres folkloriques japonais. Et donc le Japon a un immense folklore qui est largement inconnu chez nous, avec le bémol qu'évidemment il s'exporte chez nous par les animés maintenant, et donc la jeune génération commence à en avoir une idée à travers les animés. Évidemment c'est une source un peu indirecte, hein, les animés, c'est pas non plus un cours de folklore japonais, mais enfin il y a des choses qui apparaissent dans les animés. Et donc ce folklore est extrêmement riche, il y a énormément de créatures, et donc le Tengu est l'une de ces créatures, et ça c'est une créature du folklore Shinto. Donc le shintoïsme, c'est la religion native du Japon. Et donc on peut le voir comme un yokai, donc une créature féerique, ou un kami, donc un dieu de la religion Shinto. Et c'est des créatures qui originellement étaient un peu aviaires. Bon, c'était des oiseaux un peu humanoïdes, mais donc elles avaient un bec. Et puis avec le temps, ça a évolué. Et maintenant, la représentation classique à l'heure actuelle du Tengu, c'est un humanoïde, mais avec un très très long nez. Et donc, si les spectateurs, enfin les auditeurs sont intéressés, on voit des Tengu dans, par exemple, le dernier film, enfin le film Les 47 Ronins, la version avec Keanu Reeves. Il y a des Tengu qui apparaissent, donc un petit look un peu mi-homme ou mi-oiseau, voilà. Mais enfin, encore une fois, l'apparence actuelle du monstre, c'est quelqu'un avec un très très long nez. Certains y voient un peu une forme phallique, justement. Alors après, comment ça se fait que des dents de requins ont été intitulées à l'heure actuelle? En tout cas, c'est pas immédiat, pour moi c'est pas flagrant pourquoi des dents proéminentes seraient des dents de Tengu, mais je suppose qu'à l'époque ça avait du sens, quoi.
Ah, des griffes du coup
des griffes d'oiseaux.
Puisque tu les décris comme des oiseaux, ouais, ça peut être les cerfs en fait.
Exactement, ouais, j'y avais pas du tout pensé, mais tu dois tout à fait avoir raison de ce côté là
j'avais vu que les images, justement tu parlais des formes humanoïdes, j'ai jamais vu la forme oiseau des Tengu, donc c'est pour ça que ça m'avait pas sauté à l'esprit. Mais effectivement, si au départ ils étaient représentés comme des oiseaux, effectivement, ça peut être les cerfs.
Mystère résolu en live. Voilà, et alors dans les autres créatures dont on a parlé, il y avait le kappa. Tout cela, c'est vraiment des grands classiques, hein, dans les yokai. Le kappa, c'est un être humanoïde, homme-poisson, qui a comme différentes caractéristiques. Donc, il vit dans les rivières. Il a une sorte d'assiette sur le sommet du crâne qui est remplie d'eau. Et on dit généralement que si on en rencontre un, ils sont assez agressifs. Il faut leur faire la courbette. Et alors, la courbette japonaise, hein, le salut japonais. Et puis, s'ils font la courbette, ils feront la courbette en retour parce qu'ils sont très polis. Et alors, l'eau qui est dans leur assiette, sur leur tête, va s'écouler. Et à ce moment-là, ils perdront leur pouvoir, leur force. Ça, c'est encore une version très surnaturelle. Originellement, le kappa était présenté comme extrêmement dangereux, donc on l'associe un peu au kelpie, aux autres créatures des eaux que les parents ou que la famille utilise pour dire aux enfants n'approchez pas de la rivière, il y a des kappas dans la rivière. C'est une mise en garde, hein, par rapport aux étendues d'eau. Maintenant, le kappa, avec au XXe siècle, dans les animés, c'est vraiment devenu très mignon, un peu comme le monstre du Loch Ness. Si on va au Loch Ness, on a droit à des peluches super mignonnes. Mais maintenant, le kappa, c'est souvent présenté dans les dessins animés comme une petite créature humanoïde, mais pas du tout agressive, représenté de manière très mignonne. Encore une fois, dans les représentations de l'Eredo, on a des dessins assez fun de personnes en train de faire leurs besoins dans une rivière, et alors le kappa les attaque par l'arrière-train pour essayer d'extraire leurs organes par l'arrière-train. Alors c'est toujours marrant quand on voit ces représentations-là, classiques entre guillemets, puis qu'on voit les versions mignonnes à l'heure actuelle qu'on présente aux enfants. Si on en parle, c'est parce qu'il y a des momies de kappa qu'on peut trouver. Quand j'étais encore une fois au Japon, j'avais eu l'occasion de visiter une exposition sur les cryptides japonais à l'époque, donc un peu toutes les créatures qu'on est en train de parler. L'exposition était dans un musée d'histoire japonais et tout était présenté de manière totalement factuelle et exacte. Toutes les créatures étaient présentées comme existantes. C'était assez incroyable. C'est comme s'il y avait une exposition où on disait que le Loch Ness est réel, le Bigfoot est réel. Enfin, il y avait absolument aucune distance critique par rapport à rien. Et donc, il parlait de ces créatures et il y avait présenté comme un peu le clou de l'attraction, une momie de kappa, et il y avait aussi une momie de sirène, on en parlera encore après. C'était ces deux momies. Et c'était assez marrant au niveau, parce que justement je me pose beaucoup de questions au niveau de la croyance des gens par rapport à ces entités, hein, ces cryptides. Et c'est vrai que c'était incroyable quand je me tenais devant la momie de kappa et j'entendais les visiteurs qui passaient et qui disaient ah, mais les visiteurs japonais évidemment, qui disaient les kappa, ce qu'on me racontait dans mon enfance c'était vrai, alors il y a vraiment des kappa. Donc beaucoup étaient surpris et un peu choqués, mais du coup la présence de la momie était une sorte de confirmation empirique pour les tout venants qui venaient dans le musée que les kappa avaient une existence physique. Et encore une fois, ce genre de choses pourrait leur être confirmé dans les documentaires qui passent à la TV japonaise du type. C'est un peu comme les documentaires qui passent chez nous sur les extraterrestres ont construit les pyramides, mais il y en a régulièrement qui montent des gens à la recherche de kappa dans la campagne et des choses comme ça, quoi. C'est des mythes du folklore qui est tellement ancré dans la culture japonaise qu'il va, comme tu dis, avoir souvent un soupçon de doute. Peut-être que ça existe pour de vrai finalement, quoi. En fait, ces momies sont des momies qui sont conservées dans des sanctuaires shintoïstes ou des temples bouddhistes. Donc normalement, ils sont inaccessibles à la vue. À l'arrière du temple, on peut pas y accéder. Et dans cet arrière de temple, il y a des objets magiques qui est interdit au grand public, où il y a des objets qu'on ne peut pas contempler la plupart du temps, sauf quand il y a un festival ou des choses comme ça. C'est assez similaire à chez nous, le sang de Saint-Janvier ou le prépuce de Jésus ou toutes les choses qu'on trouve dans les églises, quoi. Et il y a ces momies, elles font partie de tout ça, hein, puisque bon, voilà. Comme je l'ai dit, ces créatures sont entre les dieux et les cryptides. Enfin, c'est un peu. Parfois, les momies sont sorties de ces sanctuaires pour des expositions exceptionnelles qui permettent au grand public de les voir. Alors évidemment, c'est exactement comme pour les reliques de Jésus, dont le bois de la croix, etc. Les temples shintoïstes ne laissent pas examiner par des scientifiques ces reliques religieuses. Hein. Les scientifiques n'y ont pas accès pour faire des tests ou les examiner de plus près. Mais le consensus général, c'est qu'il s'agit en fait, surtout par exemple pour les sirènes de momies qui sont créées en mettant une tête de singe japonais avec un corps de poisson. Donc à l'Eredo, il y avait des sortes de carnavals qui exposaient des bizarretés, hein, et on exposait ce type de momies à la population. Il semblerait qu'il y ait tout un commerce qui s'est développé, c'est-à-dire qu'il y a certains villages de pêcheurs qui sont devenus des spécialistes de la fabrication de momies de sirènes et de momies de kappa qu'ils vendaient à ces carnavals. Le fait que l'animal est momifié lui donne une apparence absolument bizarre et étrange.
Ah ben, il n'y a rien de plus effrayant qu'une momie de singe. Ça a un aspect humanoïde à moitié mort, c'est dur de garder les yeux dessus. Donc effectivement, je peux comprendre que ça impressionne.
Ça fait penser aux histoires de confusion du chupacabra avec des animaux qui ont perdu leur poil, etc. Hein. Donc c'est juste des animaux qui sont dans un contexte inhabituel. Et là, en plus, il y a eu un travail artisanal qui a été réalisé dessus pour associer des parties d'animaux différentes. Du coup, voilà, c'est clair qu'à l'Eredo, c'est clair que ça devait faire sensation et les gens y croyaient certainement pour de vrai. Et là encore, dans le musée où j'étais, l'exposition où j'étais, le japonais lambda qui voyait ça était quand même un peu en état de choc quand il découvrait ça. Ça lui paraissait pas extrêmement crédible, mais en tout cas, c'était impressionnant, quoi. Suffisamment impressionnant pour mettre le doute dans son esprit que le kappa n'est pas un animal totalement imaginaire.
Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver Jean-Michel sur son balado Scepticisme scientifique. C'était Paléo News, merci de l'avoir suivi. Toutes les infos et les liens vers les actus sont dans la description. Abonnez-vous pour ne rien manquer d'anciens. À très bientôt.